Retour à midi pour notre... A tout à l'heure, Laetitia Gaillet. Soyez bienvenus avec Léa Cassoboudadi, Morgane Cadignan.
Bonjour.
Fanny Ruet, Monsieur Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos invités Kev Adams et Liliane Robert. D'ailleurs, la politesse aurait voulu que je dise Liliane Robert et Kev Adams pour,
Garder le meilleur pour la fin.
Maison de retraite. Il y a du Depardieu, du Prévost, du De Mongeau, du Bidot, du Firmin Richard, Marvia Longa, Antoine Duléry, Jarry, enfin c'est un casting de ouf pour ce film de Thomas Gillot. On va en parler avec eux qui était présenté à l'Alpe d'Huez. Évidemment, c'est une comédie, mais avec du sens et avec
c'est
du
une comédie
fond.
D'abord.
C'est une comédie d'abord, mais avec des valeurs.
Puis qui intervient à un moment où...
C'est fou, tellement prémonitoire.
Super timing.
Les dossiers sur les maisons de retraite sont un peu sortis, sur le traitement des personnes âgées, voilà.
C'est incroyable, c'est tristement d'actualité, j'ai envie de dire. Parce que, bon, juste une comédie, c'est bien, ça a frisé le doc par moment dans le film. On en parle avec eux, essayez de me dire... Restez habillé, Morgane, merci. Essayez de me dire...
Tanguy.
Qui chante ça Non.
Vianney ?
Non. Peut-être que la voix va vous aider. C'est récent.
Lumière éteinte, le buste droit.
Leila ?
Oui.
Et ma Gauvincer ?
Exactement, avec Anne Sylvestre.
Gauvincer.
Pour les artistes.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Non, arrête, Gauvincer.
Mais non !
Tant que les poings seront levés.
Écoute, je passe Sylvestre.
Et que les mots auront du goût. Qu'il me reste de quoi rêver. Pourquoi ne pas rester debout.
Il n'y a pas de maison pour les artistes. Donc il y a maison.
Daniel, cœur de la mer rouge.
Non.
Sardou.
Non.
Johnny.
Non. C'est vrai que ça fait un peu...
Daniel.
Oui.
Lama.
Oui.
Ah.
La retraite de Russie, à la tête des autres.
On les a perdus.
Mais on vous regarde.
Au spectacle.
Maison de retraite. Donc j'ai fait
une chanson pour sacrifice en fait.
J'ai fait maison.
Une chanson pour sacrifice, c'est vrai.
On est trop jeune. Ah. Maison de retraite, on est trop jeune.
Vas-y, allume les bougies.
Qui chante ça?
C'est pas facile aujourd'hui. Hein.
Non. Mais il y a soit maison, soit retraite dans le titre.
Ah.
Soit. Maison de retraite.
Ou deux.
Ouais, là il y a les deux.
J'ai retrouvé ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux.
Morgane. Vincent.
Non.
Daniel. Ferré.
Non, vous le connaissez.
Non.
Leïla Jonas.
Exactement.
Ah oui, bien joué. Oh.
C'est dans le thème en tout cas.
C'est le trémolo là qui m'a fait.
Et là, qui chante ça?
Pas le temps pour le dance floor.
Leïla.
Oui.
C'est fait.
Oui. Je m'amuse déjà.
J'adore
du super bon coup. Qui chante ça? Ça s'appelait Jeune à la retraite, Féfé. Et là, cette chanson s'appelle tout simplement
Maison.
Les retraités.
J'ai une chance sur deux.
Un vieux
Daniel.
Léo Ferré. Bien joué, Léo Ferré.
Ce pauvre nuage qui va crever.
Forcément, à proposer Léo Ferré à chaque fois, au bout d'un moment, on tombe dessus.
C'est la retraite et c'est le printemps.
Elle est jalouse. Très jalouse.
Tanguy.
Non, moi je suis content pour les autres.
Qui chante ça?
Dépêche Mode.
Oh,
très France Inter.
J'aime bien. Ah.
C'est un début de Laurent.
Ça s'appelle
Leïla.
Oui.
Tanguy.
Arthur Reboul.
Non.
Tanguy. C'est qui Arthur Reboul? Tanguy.
Tanguy aurait parlé.
Dionysos, non?
Non.
Ah tiens, on aurait dit Mathias Malzieu, quoi.
Non, non.
Ah non, on aurait dit. Dominica.
Oui.
Oh,
joli. Ah oui.
Je la connais pas.
Bravo Daniel.
Ça s'appelle La Retraite à Miami.
Je la connais pas.
Soit maison, soit retraite dans le titre. 3 points pour Leïla, 3 points pour Daniel. Bonjour Morgane, Fanny, Tanguy. Tout se joue maintenant. Alors Dominica, c'est très France Inter. Et là, c'est encore plus France Inter.
Benjamin Biolay alors.
De l'herbe.
Non. Mais si vous trouvez, je sais pas ce que je fais.
Bah tiens, dis-le, ça peut nous motiver.
Non, on n'entend pas.
Écoute.
Nous voilà vieux, ma vieille. Des vrais vieux qui trient les lentilles, des vieux de la tête aux béquilles.
Burgala.
Tiens, voilà le bout de la rue. On souffle comme qu'il aurait cru.
C'est
Philippe Léotin.
Pardon.
Du temps qu'on leur en voulait pas.
Philippe Léotin.
Aux étoiles de disparaître.
Attends. Cette voix, ça vous dit rien?
Bah, si. Attends.
Si.
Macha Béranger?
Non, pas loin.
Ah,
pas loin.
T'as beau dire qu'on nous rend le cœur une fois vidé du meilleur.
Si je vous dis Pollène.
Ils ont pris le tronc et la force.
Pollette, c'est qui Pollette? La Reine des Papillotes? Bah, moi, c'est vous qui
Si je vous dis les Francofolies.
Foulquier.
Oui. Jean-Louis Foulquier.
Après l'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné.
Oui, la voix de Foulquier. En tout cas, quelle ambiance.
Mais c'est quand même.
Le temps de finir la cigarette.
Victoire.
Oui.
Leïla Cadeau.
C'est moi, France Inter.
Merci d'accueillir Liliane Robert à Cameron.
C'est l'original.
Ravi de vous accueillir. Soyez bienvenus, on disait que c'est une comédie, que c'est extrêmement drôle, mais tristement vrai par moments. Cavadane, je vais commencer par vous. Tout va bien Liliane? Vous avez un problème? Il y a un bouton. Liliane, non, il y a un bouton sur le...
Kev s'occupe du son.
J'ai monté le volume.
Voilà, pour monter le volume. Il faut monter le volume en fait. Et ça ira beaucoup mieux dans le casque.
Voilà.
Est-ce que là ça va Liliane?
Ah...
Ça va? Je vous en prie. Bonjour.
Bonjour.
Ça va Liliane?
Ça va.
Ça va que coussi coussa ou ça va?
Ça va coussa coussi.
Ah coussa coussi. Ah.
Mais il faut bien parler dans le womanizer qui est là.
Ça y est, j'ai l'image maintenant. Bravo.
Maison, l'as toujours eu.
Maison de retraite, Thomas Gilou. Comment est né ce film? Et si j'ai bien compris en préparant l'émission, il y a eu un premier scénario que vous avez écrit et vous avez demandé à une demoiselle, une dame, de venir vous aider.
Un premier traitement, exactement. Ce qui n'était pas exactement le scénario,
parce
que pour le coup. Cette dame qui est venue m'aider, qui s'appelle Catherine Diamant et qui est une co-scénariste exceptionnelle, elle avait déjà écrit le film Adopte un veuf avec André Dussolier il y a quelques années, qui avait été un franc succès et elle m'a rejoint. J'ai écrit un premier traitement tout seul, c'est vrai.
Qui était plus une comédie et moins de sentiments, on va dire.
Oui, parce que je viens de l'écriture du one man show, donc c'est vrai que je cherche à avoir du rire absolument le plus souvent possible avec le plus de rythme possible et c'est vrai qu'elle a amené cette émotion aussi qu'il y a dans le script et des très belles phrases, des phrases très philosophiques auxquelles je tiens beaucoup aujourd'hui, forcément.
Il y a dans ce film, on le disait, Leïla, une triste part de vérité. Liliane Revers, vous avez suivi l'actualité de tout ce qui se disait là en ce moment sur les EHPAD et les maisons?
Oui, ouais, j'ai bien suivi et je suis d'ailleurs en général bien l'actualité. J'aime bien être informée.
C'est vrai?
Oui.
Et vous avez pensé quoi? Parce que vous avez tourné le film Maison de retraite avant que les livres
et le scandale n'éclate, mais enfin, on peut se douter que ça dure depuis longtemps.
Oui.
Étant donné que c'est quand on veut faire avec de la santé ou de l'âge ou des choses ou de l'éducation, quand on veut faire de l'argent avec ça, ça tourne toujours mal.
C'est ça, quand ça devient un business, ça devient
un business.
Mal.
Voilà.
Ceci étant, le film est drôle. On ne rit pas contre les sociétaires, j'ai envie de dire, de la maison de retraite, mais on rit avec eux. Et c'est plutôt l'inverse. C'est eux qui nous font rire au détriment du méchant incarné par Antoine Duléry.
Ça lui va tellement bien de faire un salaud.
Mais ça frise le documentaire pour Antoine.
Ouais.
Ou au détriment de votre phobie du vieux, Cavadane. Votre personnage a peur des vieux.
Ouais, c'est exactement ça. Il en a peur, il les déteste parce qu'il les connaît pas. Ça vient souvent de là, d'ailleurs. Hein, quand on déteste des gens, ça vient souvent de beaucoup d'ignorance.
Mais ça vient de l'enfance.
Et ça vient de l'enfance, ouais, évidemment. Voilà. Il y a une raison qui est plutôt très bien expliquée dans le film, qui est, on peut le dire, hein, ça spoil pas le film de toute façon, quand ses parents sont décédés, il y avait encore son grand-père qui aurait pu reprendre sa garde. garde et qui a refusé de le faire. Et du coup, il a un peu généralisé les personnes âgées. Pour lui, c'est tous des enfoirés, quoi, des gens avec qui il faut pas avoir de rapport. Et puis, il va se retrouver condamné à faire des travaux d'intérêt général, pardon, dans cette maison de retraite.
300 heures, hein, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Parce qu'il a il a agressé une vieille dame.
Exactement.
Les
gens verront, mais il arrive quelque chose avec Marie-Pierre Cazé.
D'ailleurs, elle est formidable.
Elle est super, Marie-Pierre Cazé.
Elle est magnifique. De glisser sur des tables. Ouais. Hein,
mais quel âge a-t-elle? Elle n'a eu de cesse de glisser sur cette table depuis le temps.
Elle n'a eu de cesse.
Elle a toujours glissé sur cette table.
C'est ce qu'on dit. C'est fou de
elle
n'a eu de cesse.
C'est en fait fou de glisser aussi longtemps.
Moi, je la connais depuis toujours.
Mais oui, nous aussi.
Elle est formidable et on l'embrasse. Milan.
C'est fou d'ailleurs de voir la joie que les gens ont de la retrouver dans le film.
Mais clairement.
Et du coup, voilà, il va se retrouver donc obligé de travailler avec ces personnes âgées aux côtés de ses résidents. Au début, évidemment, c'est très drôle parce que c'est
un enfer pour lui.
Mais c'est une opposition totale, tous les opposent. On parle d'un mec qui a grandi en foyer, sans famille. On parle de gens qui sont dans leur petit cocon, dans leur endroit où finalement ils ont leurs habitudes. Et il y a cette espèce de nouveauté qui arrive, ce parasite qui vient dans leur vie. Donc c'est et puis forcément au moment où ils vont avoir le plus besoin d'aide, les seuls qui vont lui tendre la main, c'est eux.
Et il y a une espèce de mafia au sein de l'EHPAD, c'est-à-dire qu'il y a un ordre établi. Il y a le taulier un peu tenu par Gérard Depardieu.
Un groupe de résistants.
C'est ça. Qui est un ancien boxeur. C'est un ancien boxeur et
moi je les appelle les Jedi, c'est un conseil de Jedi quoi, tu vois.
Et il veut se faire la peau du petit jeune, on va lui faire ça. Il y a des gages et il y a des passages qui sont totalement
dingues. Il y a des bisoutages.
Il y a des bisoutages, voilà, c'est ça, exactement. Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène de Mongeau, Jean-Luc Bidault, Liliane Revers, Firmin Richard, Marthe Villalonga, Antoine Duléry, Jarry, Manda Touré, Oussama Kedam, Omar Mekroub et Mebrouk pardon et Kev Adams sont à l'affiche de ce film Maison de retraite qui sort aujourd'hui
même. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, Nagui, c'est la reprise du popcorn et des bonbons dans les cinémas aujourd'hui.
C'est vrai?
Et oui, c'est aujourd'hui.
Okay, d'accord.
Ainsi que la réouverture des boîtes de nuit.
Boîtes de nuit,
mais non.
Eh oui.
Ben Nagui,
ce soir, on va au cinéma, popcorn et après boîte de nuit.
Et après boîte de nuit. Ça, c'est une bonne soirée France Inter.
Maison de retraite et on est ravi de vous accueillir, Liliane et Kev. On est ravis
de nous recevoir.
Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane Gagnon.
Évidemment. La fameuse.
Et Morgane ne vous aime pas, Liliane. Voilà. Elle ne vous aime pas, Kev. Non,
Kev. Je m'accroche, attendez.
Non, je ne vais pas être très méchante. Kev Adams, Liliane Revers, je ne vous aime pas. Mais contrairement au personnage de Kev dans le film, moi, j'aime les vieux. J'ai tellement toujours aimé le troisième âge. Être enfant, c'est chiant, quoi. T'as pas conscience de la chance que t'as de faire de la sieste et d'aller te coucher tôt. Mais moi, les gars, cette semaine, si quelqu'un me dit, Morgane, on va aller se brosser les dents et se coucher dans 10 minutes, je serai là. Mais oula, pourquoi dans 10 minutes? On y va maintenant. Pas d'histoire. Extinction des fuego. Il n'y a pas une minute à perdre. Je suis fatiguée. Les amis, j'ai des valises sous les yeux, mon gars, il y a Carlon Ghosn dedans, quoi. Le troisième âge, c'est mon âge préféré, et moi, j'ai 70 ans depuis si longtemps, déjà à 12 ans, je disais des trucs genre, oula, non, pas de lait fraise après 16 heures, parce qu'après, je dors pas, c'est l'enfer. Et c'est parce que, les amis, c'est parce que j'aime les vieux que je déteste les maisons de retraite. Je suis allée il y a quelques temps voir une de mes grand-mères, ma grand-mère maternelle, dans un EHPAD, et franchement, c'était pas cool. Les gens sont vieux, mais vieux, hein, pas vieux Daniel Prévost, Gérard Depardieu. Là, j'ai vu des gens, ils devaient appeler Mitterrand le petit haut. À un moment, j'ai dit, à quelqu'un, dis donc, faudra un peu restaurer la statue dans l'entrée du parking. Là, on m'a répondu, ah non, c'est Monsieur Dumont. Donc ça, c'est horrible. J'ai vraiment pas passé un bon moment. Ça ressemble au limbe de l'enfer. Il fait chaud, il fait sombre. On dirait le Mordor, sauf que l'œil de Sauron, il a la cataracte. C'est l'enfer. C'est le vrai enfer. Je suis quasi sûre d'avoir vu Lord Voldemort distribuer des compotes. Harry Potter et les reliques de la mort. Je te
Harry Potter.
Sauf que les reliques de la mort, tu les appelles papier mamie, quoi. Mais si c'est comme ça, c'est parce qu'apparemment, on n'a pas de budget en France, messieurs dames, pour améliorer les conditions d'accueil des vieux. Faudrait que la course en fauteuil, ça soit une discipline olympique. Là, on aurait peut-être de l'argent pour construire des tonnes d'hébergements décents. Mais bon, tous les vieux de France n'ont malheureusement pas la chance de siéger au Sénat. J'ai donc passé la journée avec ma grand-mère. On discute, elle me dit Pénélope. Franchement, ce sont tes plus belles années. Alors c'est pas mon prénom et elle perd un peu la tête. Elle savait pas à qui elle parlait. Puis moi, c'est vrai que je suis arrivée là-bas sacrément bourrée, donc c'était peut-être même pas ma grand-mère. Donc bref, la vieille personne me dit tu vis tes plus belles années, profite. Et quand elle a dit ça, mais j'ai débourré direct, quoi. Donc ça c'est le plus beau, ce que je vis en ce moment. C'est la meilleure partie du film. Bah quel film de merde. Donc ma vie c'est all inclusive en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu enfin, non, attendez, je peux pas accepter.
C'est très marrant.
Je peux pas. Accepter que je vis mes plus belles années d'adulte quand la puberté me roule encore à moitié dessus. J'ai 31 ans, j'ai de l'acné. Je paie des impôts tout en ayant le grain de peau d'un Kinder Country. Ça peut pas. ça peut pas être le meilleur. Je me dis que quand moi je serai trop vieille, je risque de finir dans un EHPAD aussi, les gars. J'aurais pas forcément fait d'enfants qui vont s'occuper de moi. Puis je veux pas faire d'enfants pour qu'ils prennent soin de moi quand je serai vieille. C'est n'importe quoi. Moi, si je fais des enfants, c'est pour les vraies raisons profondes qui poussent une femme à devenir mère.
J'ai peur.
Empêcher mon mec de me quitter. Et boulotter du sucre toute la sainte journée en toute impunité. Tu sais, les meufs genre, ah non, c'est le bébé, il a envie de sucre. Moi, je déteste la pizza, mais le bébé, il adore ça. Bah, bien sûr, Marjorie. À 13 ans, t'étais déjà l'heureuse propriétaire de 7 mentons. C'était le bébé aussi, non? Bref, Maison de retraite, c'est un film qui donne envie de s'occuper de nos vieux parce qu'on oublie souvent que même si parfois ils oublient des trucs, ils en savent un peu plus que nous, que même s'ils marchent plus aussi vite qu'avant, ils ont quand même 3 longueurs d'avance sur nous. Puis les vieux, c'est comme tout le monde. Il y en a des sages, il y en a des cons. Dans les deux cas, si on l'est pas déjà, on le sera un jour. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est décidé, à 35 ans, je serai une vieille conne.
Merci, Morgane Guédignan.
Et Morgane, on se retrouve jeudi, vendredi et samedi à Lyon.
Et oui.
Qu'est-ce que ça a fait, Liliane Revers, lorsque vous avez été contactée pour jouer dans ce film et que vous avez retrouvé toute cette bande? Alors, je ne sais pas si vous étiez amie avec tout le monde, si vous les connaissiez ou si vous aviez déjà travaillé avec eux.
Je croyais que vous alliez me demander qu'est-ce que ça fait d'être vieux.
Non, ça je sais.
Bah, il est plutôt très au courant, le monsieur, quand même. Hein.
Bah, écoutez, moi je suis comédienne, j'aime jouer, on me propose de jouer dans un contexte magnifique. Voilà, Thomas Gilou, je l'aime bien. Gérard, je le connais, enfin je le connais
vous
depuis.
Vous aviez déjà travaillé ensemble?
Oui, j'avais fait 2 films avec lui. Un grand silence tout d'un coup.
Non, pas un grand silence. Non, c'est de se dire, encore une fois, il y a un côté troupe dans ce film, contrairement à beaucoup de films. C'est vraiment un film collégial où il y a beaucoup de scènes à partager à 6, 7, 8 acteurs. C'est pas toujours le cas au cinéma. Et on sent qu'il y a une espèce de je sais pas, de plaisir ou de connivence, en tout cas dans votre jeu. C'est ce que vous voulez faire passer, c'est ce qu'on ressent en tout cas.
Oui, mais enfin, c'est ce qui doit se passer entre les comédiens. Il faut que ça s'échange. Si vous arrêtez de jouer quand vous arrêtez de parler et que vous revenez, n'écoutez pas l'autre, vous ne jouez plus. Je veux dire, on joue tout le temps. Le silence est très intéressant aussi. L'écoute est très intéressante aussi. Et puis, j'étais entourée de gens magnifiques.
Ouais,
et
puis ça joue bien en plus. Est-ce que vous, en lisant le scénario, vous avez souri, vous avez été émue, qui sont les quand même les deux émotions principales que l'on ressent quand on le voit?
En lisant le scénario, j'ai surtout ri, moi.
D'accord.
J'ai été émue plus tard.
Et puis parce que
à l'arrivée.
Et puis votre personnage est rock'n'roll.
Oui, elle est rock'n'roll. Elle est, c'est un sans personnage filtre. Populaire. J'aime bien les personnages populaires.
Oui. Ancienne tenante, elle avait une brasserie, un restaurant.
Tenancière, ça fait bizarre.
Oui, c'est attends, ça. C'est pour ça que je me suis arrêtée.
Au début, j'ai fait
voilà.
Voilà. Elle était à la tête d'un restaurant, en fait.
D'une brasserie, une voilà. Brasserie. Elle est donc, elle a l'habitude de voir du monde. Elle a l'habitude de communiquer. Elle a l'habitude de...
De tisser un lien, en fait, avec
d'écouter,
ces gens.
D'écouter ouais.
Oui, mais dans tous les métiers où on travaille en public, on tisse des liens comme ça.
Ouais.
Il y a dans ce film, Kev Adams, dont vous êtes co-auteur et producteur, quand même, vous n'êtes pas que l'interprète, c'est-à-dire que vous l'avez vraiment porté à bout de bras.
Oh là oui. Et à bout de porte-monnaie également.
Ce projet, ça a été compliqué à monter.
Ah ouais, ça a été un enfer.
Pourquoi?
Bah parce que ça a été un enfer.
Parce qu'il y a un casting de dingue, le sujet fait rire.
Parce que le sujet fait peur, parce que les assurances voulaient pas nous assurer, parce que on
parce
a
que
pas
les acteurs, les acteurs étaient trop âgés.
En partie, c'était une des raisons.
Ah
ouais.
Bon
c'est une des raisons. Ouais. C'est grave même. C'est oui. Au-delà de fou, c'est grave. C'est-à-dire qu'on parle d'acteurs qui ont une expérience extraordinaire et qui peuvent voilà, encore faire des rôles monumentaux.
Bah,
Liliane en est la preuve, c'est-à-dire qu'elle enchaîne les rôles extraordinaires, que ce soit dans notre film.
Les assurances disent non,
c'est pas qu'ils disent non, ils te disent tu as le droit d'avoir des acteurs âgés, c'est super, mais il faut pas que ça représente plus de 60% du casting, ce qui était notre cas. Et donc, parce qu'ils plus de 55%, je crois exactement.
Il y a des quotas.
Ouais, parce des qu'ils appellent quotas. Ça, c'est ce qu'ils appellent des personnes à risque.
Ouais.
Personne à risque.
Voilà.
Ouais, mais ça, on sait depuis le début, Liliane.
Personne à risque.
Ouais.
Et le seul risque que t'as avec Liliane, c'est de
rire.
Mort de rire. Hein, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça m'a un peu agacé. En même temps, ça m'a encore plus donné envie de raconter cette histoire, précisément ce que ça dénonce, quoi.
Voilà, exactement. Vous avez outrepassé cette interdiction, entre guillemets, ces quotas, comment vous avez fait?
On a trouvé à force de discussions, de négociations. Ensuite, on a eu des gens qui devaient financer le film, puis qui nous ont lâchés en cours de route, et puis on a eu des sauveurs, et puis ensuite, on a commencé le tournage, et puis on a dû arrêter en plein milieu, et puis il y a une de nos comédiennes qui est tombée gravement malade du Covid. On a cru qu'on pourrait jamais reprendre ce film, puis finalement on a repris, puis finalement après on devait sortir en 2020.
Et elle va très bien, il faut le dire.
Très bien.
Mylène de Bonjour.
C'est le jeu de loi, reculer 3 cases, aller en prison,
c'est très bien résumé.
Et c'est pour ça que vous êtes allé chercher Wawrinka, le joueur de tennis en coproduction.
Écoute, moi j'ai été chercher personne, c'est la vie qui m'a amené ce gars qui est mon ami depuis très longtemps et qui d'un coup me dit qu'est-ce qui se passe.
Sur le projet.
Et il nous a suivi sur le projet et surtout il a investi de l'argent. et une intelligence dans le projet, et de l'argent et de l'intelligence qui nous a permis de mieux nous organiser et de réussir à aller au bout de ce tournage.
Dieu le bénisse.
Ce qui est fou en l'occurrence, c'est qu'on est en train de dire, il y a un problème avec la manière dont nous nous occupons de nos anciens, le respect que l'on a pour eux, l'économie ou le marché qui se fait avec les maisons de retraite autour. Un film vient dénoncer ça, et là d'un coup on dit, ah ouais non mais...
Non mais le film dénonce pas ça, le film c'est une comédie. Si. Non mais il s'avère qu'aujourd'hui, de façon concomitante, il y a le scandale qui a éclaté sur les maisons de retraite, et en effet vous en parlez avec cette comédie, et c'est hyper important, mais c'est surtout l'industrie du cinéma qui, par rapport à ses assurances, qui assume
mais
pas...
Mais Nagui a raison, tout est lié, c'est-à-dire qu'à un moment donné...
Non parce que le point de départ de l'idée, c'est que vous avez vu un article quelque part qui parlait de ce qui se passait en EHPAD.
J'ai lu plusieurs faits divers qui parlaient effectivement de différentes arnaques qui ont eu lieu depuis des dizaines d'années. Hein. C'est pas nouveau, hein. Évidemment, que le livre de Victor Castanet met ça en lumière, mais ça existe depuis des années.
Non, mais
la preuve,
c'est que
quand on a il y a 3-4 ans, quand on s'est renseigné avec Catherine Diamant, la co-scénariste, on a déjà eu écho de plein d'histoires qu'on peut retrouver dans le livre.
Mais c'est pas la raison pour laquelle les assurances. Si vous avez fait un film qu'avec des personnes âgées en colonie de vacances, les assurances vous auraient sans doute dit les mêmes choses.
Bien
voilà,
bien
c'est
sûr.
Ça que je veux dire.
Tout
voilà,
à fait.
Mais moi, j'ai déjà eu des problèmes avec les assurances.
Oui.
Enfin, pas moi, la production, elle a déjà eu des problèmes parce qu'ils demandent tellement cher.
Évidemment.
Pour assurer.
Qu'il faut pouvoir fournir.
Mais c'est monumental.
Quoi.
C'est une manière de dire non, d'ailleurs.
C'est une façon de dire non.
Mais je vais vous dire, vous avez raison, ça aurait été sur une colonie de vacances avec des personnes âgées, ça aurait été la même chose. Sauf que là, ce qui est fou, c'est que c'est précisément ce dont on parle dans le film. Mmh. C'est-à-dire, il faut arrêter de les mettre à l'écart, ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, à nous transmettre. Tu vois, 75 ans de nos jours, c'est plus si vieux que ça, tu vois, il y a encore plein de gens qui ont...
Les Rolling Stones.
Non mais la preuve, non mais c'est vrai, qui ont encore énormément de talent et de choses à nous donner à 75 ans. Donc c'est fou de se sentir capé, bloqué, effectivement, au moment même où on veut raconter une histoire sur ce sujet. C'est ça
mais il faudrait arrêter d'associer vieillesse, tristesse, ennui, gris, voilà, c'est en pouvant en pointillé. C'est difficile. Quand on est vieux, il vaut mieux être riche ou bien portant ou avoir du succès que d'être pauvre et seul. Hein.
C'est pour ça qu'il y a aussi, en plus, dans toutes les valeurs portées par le film, une histoire d'amour aussi, parce que
une sublime histoire d'amour.
On n'a pas l'idée et il y a eu plusieurs films qui l'ont évoqué, mais l'idée que la sexualité ou l'amour peut exister justement aussi à 70 ou à 80 ans.
On a essayé de traiter plein de sujets dans ce film qui nous plaisent, qui nous parlent et qui sont d'actualité. À savoir les histoires d'amour dans les maisons de retraite, mais aussi la sexualité dans les maisons de retraite, qui est un sujet, il faut le savoir, super tabou aujourd'hui. Dans les maisons de retraite, c'est omniprésent. Pour le coup, on y a été avec Catherine, et c'est quelque chose qui est omniprésent, et pourtant, personne n'en parle. Il y a un côté, ah non, il ne faut pas parler de ça et tout, c'est quand même. C'est leur intimité. C'est ça. Alors que, on le voit dans le film, ça peut être d'une mignonnerie extraordinaire.
Ouais,
ça
et là,
peut
c'est d'une drôlerie.
Et c'est
plus,
très c'est drôle en plus.
La
de
façon
ça.
Dont c'est abordé, c'est génial, parce que pour le coup, on en rit, mais à gorge déployée, on pleure en voyant
non
ça,
seulement
pourtant,
on rit,
ça aborde le sujet.
Mais on a un sourire jusqu'aux oreilles quand ils vivent leur histoire, entre guillemets. Ouais. Il y a quelque chose de très joli, de très mignon, de très touchant. Et on a essayé d'aborder comme ça plein de sujets que sont la transmission, l'éducation aussi. C'est quand même l'histoire d'un mec qui est perdu dans sa vie, que j'interprète, parce qu'il n'a pas eu de cadre, pas eu d'éducation, et donc il ne sait pas où est-ce qu'il va aller dans sa vie, il ne sait pas quelle va être la prochaine magouille, puisqu'il n'y a rien qui le tient finalement. Et il va rencontrer ces personnes âgées, et ils vont, au-delà d'une famille, ils vont lui amener une éducation, un cadre, quelque chose qui lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà comment on traite les gens.
Voilà.
Ouais, exactement.
Pas de gentil.
Et on retrouve aussi un petit côté de la vie est belle de Capra, c'est-à-dire ce côté, on est. Liliane ?
Oui.
Ah, je croyais voulais dire quelque chose.
Non, j'approuve du chef.
Ouais, c'est vous opinez du chef, c'est ça ?
J'opinais du chef.
C'est-à-dire que les amis, le lien est plus fort que tout et va finalement résoudre des solutions et apporter des solutions.
Je crois qu'il faut arrêter de considérer les choses en les mettant en catégorie. Les tout petits, les jeunes, les machins, les trucs, les nains, on arrive aux vieux. On coupe les trucs. Tout ça, c'est un saucisson entier. Arrêtez de le couper en tranches.
Et puis, pour
regarder ça.
Wow, c'est bien dit.
Pour aller dans votre. C'est super. J'ai pas compris, mais c'est super bien dit.
Si, l'image du saucisson, elle est énorme.
Vas-y, explique-moi.
C'est énorme.
Mais je voulais dire que dans la salle, quand j'ai eu la chance de voir le film.
Non, parce que c'est Nagui, il faut pas dire saucisson. Tu vois une baguette ou pas? Imagine une baguette.
Prends une courgette ou une aubergine. Donc, je voulais dire que dans la salle, il y avait des enfants. Et que les enfants riaient aussi, et que les enfants étaient spectateurs. Faut pas non plus penser que parce que ce film s'appelle Maison de retraite, c'est un film pour les vieux.
Ah, mais d'ailleurs, c'est dingue de voir à quel point ça touche les plus jeunes.
Non, mais la réaction des enfants était même très très intéressante. Kev, à toi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Vous lui avez coupé le saucisson, c'est pour ça qu'il n'a plus osé parler après.
Non,
mais attends, coupé Liliane, la chic.
Absolument pas, attends, je t'écoutais parler également. Non, c'est vrai que les enfants adorent le film, j'ai eu la chance d'aller le présenter dans quelques cinémas en France, et on a eu des réactions qui sont dingues. Les enfants, ils nous disent, on a envie d'aller dans cette maison de retraite là, nous, quoi.
C'est sûr que ça
on
donne
a envie,
envie
d'aller se marrer, on a envie d'aller rencontrer les personnes âgées, et puis même des ados qui m'ont dit, est-ce que c'est possible d'y aller, ça donne envie d'y faire un stage. C'est aussi l'idée du film,
franchement. Vous voulez dire pour aider aussi pour tendre
la main. Bien sûr.
Mais c'est envisagé, hein.
Complètement.
C'est envisagé que des écoles de petits soient mixées aussi.
Mais parce
avec
que c'est. Il faut l'évoquer.
Je parlais pas de ça, exactement.
Mais la fin du film est magnifique à cause de ça, parce que cette association du vieux et des jeunes.
Bon, écoute, on dit tout.
Non, on va pas dire.
On va pas dire tout, mais on va dire qu'il y a une idée, une notion de transmission qui fait partie des valeurs portées par le film.
Que les générations peuvent s'apporter des choses.
J'en fous, c'est pas grave. Spoil.
On va dire aux gens plus jeunes, quand on est vieux, on peut parler aux gens plus jeunes, on peut pas faire le contraire. Enfin, si on peut pas anticiper. Mais on peut dire que si on peut bien vieillir. Bien vieillir, ça veut dire que si on reste curieux, si on reste étonné, si on a envie de savoir, envie de comprendre et que ces envies-là ne fatiguent pas, je vous assure que le corps fatigue, mais pas la tête.
C'est joli comme tout. Liliane Revers avec Kev Adams sont nos invités jusqu'à 12h30. Voici Fanny Ruet. Oui. Oh,
coucou les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, il y a eu des manifestations contre les mesures sanitaires en Nouvelle-Zélande. Et pour faire fuir les manifestants, la police a mis des haut-parleurs et a diffusé très très fort des chansons du genre James Blunt et Baby Shark.
Non.
2 ans de souffrance pour les artistes avec la pandémie et ces Baby Shark qui nous prouvent que la culture est essentielle. C'est dur. Donc 2 remarques à ce sujet. Premièrement, qu'attend-on pour passer Crazy Frog à la frontière ukrainienne? Peut-être qu'on est à deux ting ting de la paix, on sait pas. Et secondement, à quel moment on a arrêté de respecter la culture à ce point? Déjà Kev Adams qui fait des films, c'est chaud. Mais là,
je la voyais venir.
Oui, mais oui.
Je vais
même demander avant parce que je suis un bébé chat et j'ai peur de vexer les gens. Mais bref, donc on utilise la culture pour faire fuir les gens. C'était pas censé être le but premier. Et puis j'ai réfléchi. Et en fait, c'est vrai qu'on est plein à utiliser la culture pour d'autres raisons que de vraiment se cultiver, genre le cinéma. Concrètement, moi j'y vais parce que nulle part ailleurs, tu peux acheter un seau de 500 grammes de maïs. Sauf si t'es en 1628 et que c'est la dot. C'est comme ça que j'ai acheté Morgane. Et puis en vrai, le vrai avantage du cinéma, c'est que ça te permet de passer du temps avec des gens, même si vous avez rien à vous dire. Genre les gens que t'as envie de garder dans ta vie, mais à qui tu vas pas non plus accorder toute une soirée. Genre, ce que t'aimes quand tu fais des trucs avec eux, c'est les trucs. Genre moi, il y a des amitiés entières que je dois à Pierre Ninet. Et c'est à ça que sert le ciné. Et aussi un autre truc, c'est que quand les lumières se rallument quelques secondes après les pubs, comme ça les papas ils peuvent dire « Ah, c'était bien hein. !» Ils adorent l'humour. Et il n'y a pas que le cinéma qu'on a détourné d'ailleurs, il y a la musique en live aussi. Pourquoi on va voir des concerts? J'ai jamais rêvé de voir mon chanteur préféré en tout petit. Non, si je vais à un concert, c'est juste pour pouvoir faire une introspection pendant 3 chansons sans être dérangé par la vie. Les festivals, pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où c'est socialement accepté de boire une bière à 13h. Avec la Belgique, mais voilà.
Surtout la Belgique.
Les livres, moi j'en ai plein pour quand j'ai besoin de grandes feuilles. D'ailleurs, parenthèse, il y a 2 jours, je lisais un livre qui s'appelle la définition du bonheur et mon chat a pissé dessus. Mon chat a pissé sur la définition du bonheur. Et là, je me dis, on est vraiment une famille cohérente, en fait. Bref, le stand-up aussi, on l'a détourné. Personne va voir du stand-up pour l'amour des blagues. Vous y allez parce que ça vous rassure de voir quelqu'un qui va plus mal que vous. Un spectacle d'humour, c'est une thérapie avec des punchlines. C'est un safari de gens en rémission. On a complètement détourné la culture de son objectif premier. Ou alors, c'était le but depuis le départ. Peut-être que les premiers artistes, ils n'ont pas du tout fait ça pour l'amour de la création. L'opéra. Peut-être c'était un mec qui savait pas comment expliquer à sa copine que ce qui l'excite, c'est de se faire crier dessus en italien pendant 4 heures. Et qu'on lui dise « psst » quand il parle. Je te rappelle, Nagui.
Très bien.
Super. Le mec qui a créé l'art contemporain, c'est peut-être juste que les éboueurs sont pas passés. Si ça avait été un jeudi soir, Marcel Duchamp, il aurait jamais eu de carrière. D'ailleurs, peut-être même que James Blunt, peut-être qu'il est bien content qu'on utilise ses chansons pour disperser les gens dans les manifs plutôt que de les taper. Parce que James Blunt, avant d'être chanteur, il était militaire. Donc peut-être qu'à la guerre, il s'est dit « plus jamais ça ». Donc il a créé une arme anti-conflit. On ne sait pas, mais l'Eurovision, en fait, c'est une démonstration de force. La Suisse, c'est pas qu'ils sont neutres, c'est qu'ils chantent fort. L'Eurovision, c'est le salon de l'auto des armes de destruction massive. Un qui a la plus grosse, mais en parlant de la tessiture. Bref, je ne sais pas si James Blunt il va sauver le monde, mais dans le doute... cultivons-nous.
Oh bien, merci.
Magnifique.
Et Fanny, on se retrouve sur scène à Caen, Auray et Lille cette semaine.
Absolument.
Liliane Revers et Kev Adams sont nos invités. Vous dites que votre personnage, Liliane, c'est la France des vieux bistrots, des discussions comme ça qu'on peut avoir.
Ça fait un peu. Ça c'est pas gentil, parce que les discussions de comptoir où on dit des bêtises, etc. Non, c'est populaire. Et puis manger, c'est important. C'est un acte sacré, on l'a oublié.
Mais il y a une scène où vous découvrez l'ancienne carte du restaurant.
Oui.
Et là, ça vous...
Ça vous transporte.
Ça vous renvoie à plein de
ben
choses.
Ben oui, ça me ramène en arrière. Vous savez, c'est comme les odeurs, les chansons, les choses qu'on a vécues. Mmh. Ça vous ramène au moment où vous les avez vécues.
C'est votre Madeleine. Il y a une part presque, enfin très personnelle dans ce film, Kev Adams, parce que vous dédiez ce film à votre grand-père.
Oui, tout à fait.
Et pourtant, dans le film, le personnage, lui, fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a plutôt la haine de son grand-père. Vous avez toujours eu des rapports très particuliers avec vos grands-parents.
Ouais, et puis surtout, j'ai l'impression qu'on évolue dans le mauvais sens. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'avais 14-15 ans, mes grands-parents, étaient omniprésent dans nos vies, quoi. C'était pas un événement de voir ma grand-mère le mercredi, le samedi, le dimanche. Tu vois, c'était un peu normal, quoi. Et puis aujourd'hui, j'ai un frère qui a 15 ans. Je vois bien que quand il voit ma grand-mère trois fois dans l'année, on dirait qu'il a fait un don à la Croix-Rouge, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est comme un dingue. Et il a l'impression que c'est bon, il a fait sa BA, quoi. Et je trouve ça dommage. Et en même temps, je lui en veux pas ni à lui ni à elle. Je pense qu'il y a malheureusement une espèce de fossé générationnel qui se crée depuis quelques années. Les plus jeunes, ils sont sur TikTok, tu vois. Ma grand-mère, elle est sur France Inter. Donc à un moment donné.
C'est pas joli, ça.
Si, c'est fair play.
Non, c'est très bien.
C'est normal.
C'est très bien.
C'est normal, attends, c'est totalement réel. Donc, tu vois, il y a ce côté fossé générationnel, quoi. Tu vois, ils ont pas suffisamment de points de rencontre culturels et je trouve ça dommage.
Sans compter que toutes les familles ne sont plus forcément dans la même ville ou dans le même quartier, qu'il peut y avoir aussi une distance qui se crée. Et
en plus, on
fait moins l'effort d'aller.
Et puis
les voir
Covid a accentué tout ça, on va pas se mentir. Ça fait 2 ans qu'on nous dit, faites attention, n'allez pas trop les voir, gardez de la distance, etc.
Est-ce que c'est vraiment une histoire de génération? Parce que j'ai l'impression que la mienne, et je suis pas toute jeune non plus, il y avait quand même déjà des jeunes gens qui étaient très proches, d'autres pas du tout proches. C'est aussi une question de culture familiale.
Évidemment, chacun, c'est sûr et certain que c'est différent chez chacun. Mais je parle plus d'une espèce de généralité. Je me rends bien compte que je vais donner un exemple très simple. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère venait très souvent me chercher, moi, à l'école, au lycée, etc., etc. Enfin, genre normal, on allait faire des activités avec mon grand-père après. C'était très cool. J'ai l'impression qu'il y a plus du tout ça, quoi. Ni chez mon frère, ni chez les potes de mon frère. Après, ça doit exister, tant mieux si ça existe dans d'autres familles, et c'est super. Mais je crois que ça a créé une espèce quand même de fossé, ce Covid, et que ça a accentué un truc qui était déjà présent.
Oui.
Liliane, vous voulez dire, je vous en prie.
Oui, mais je voulais dire que moi, j'ai 2 petits-enfants. C'est une joie. Et j'ai fait très attention à ma relation avec eux. Et je la cultive et je l'arrose tous les jours comme on arrose sa plante. Voilà. Et ma petite fille, l'autre jour, m'a dit quelque chose. Je vais le dire, tant pis. Elle me l'a dit à moi, mais je vais quand même le dire. Et si elle entend, ben, elle entend.
On l'embrasse.
Elle a dit, tu sais, toi, t'es ma grand-mère, mais t'es ma meilleure pote.
Oh. C'est joli.
C'est joli.
C'est
parce que moi, j'ai une relation riche.
Formidable.
Avec elle.
Oui. Et la relation d'un grand-père ou d'une grand-mère n'est pas dans la sanction, mais plutôt dans la transmission, la connivence ou les blagues, mais on n'est pas là pour punir.
Oui,
pour
et puis c'est ce qu'on a à se dire, et puis c'est, je veux dire, on peut, par exemple, la petite, la mienne, elle chante. Moi, j'aime la musique. On se met des musiques, elle me met sa musique, je lui mets la mienne. On
va écouter justement ce que vous aimez comme musique, Liane, ce que vous écoutez. Morgane, tu voulais dire un truc avant?
Non, mais je réfléchissais à ce que disait Kev sur le...
Oula.
Non, mais sur le fossé qui se creuse, est-ce que ça peut pas être une explication aussi que les gens font des enfants de plus en plus vieux? Parce que
peut-être,
moi, mon père m'a eu jeune et j'avais des grands-parents hyper jeunes. Donc quand ta grand-mère, elle a 55 ans...
Mais là où je suis d'accord avec Eve, c'est que les vieux aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes dans leur tête que ce que c'était il y a 50 ans. Ça marche dans les deux sens. La musique, justement, dans la vie de Kev Adams. Déjà, il y a la musique dans le film avec vous, Maison d'Hôtel.
J'adore cette musique. De Claude Morgan et Julia Cohen qui ont fait un travail monumental sur le film.
Interprété par Tanya Michelle Smith, Never Look Back, il y a aussi... La... Ce film Maison de retraite sort aujourd'hui, signé Thomas Gilloud. D'ailleurs, pourquoi vous ne l'avez pas réalisé, Kev? Parce qu'on vous sent tellement impliqué, tellement dans cette histoire.
Parce que je trouvais que ça faisait trop de casquettes, franchement. Tu vois,
vous y avez pensé, en tout cas.
Produire le film, ça a été beaucoup d'étapes et beaucoup de complications. De l'écrire pareil, de jouer dedans, ça a été aussi beaucoup de boulot.
Donc vous y avez un troisième œil, quoi. Quelqu'un
ouais,
de,
et puis je suis fan du travail de Thomas Gilloud depuis de nombreuses années. Je trouve que il traite très bien les rencontres de gens que tout oppose. Il y a vraiment un point commun dans tous ces films, c'est souvent ces gens qui se mettent à rencontrer une communauté dont ils ignorent tout, et finalement ils vont se trouver dans cette communauté, ils vont trouver leur destin, leur voie. C'est le fond de La vérité si je mens, c'est le fond de Michou Daubert, c'est le fond de Black Micmac, donc tous les films de Thomas Gilloud. Donc je me suis dit, il va être à sa place pour raconter ce genre d'histoire.
On va parler avec Yves Lanier dans quelques minutes, qui est délégué général de l'association Petits Frères des Pauvres et qui lutte contre l'isolement des personnes âgées, pour parler de la situation dans les EHPAD. Il va venir dans quelques minutes, mais d'abord la musique dans la vie de Liliane Rovert. Il y avait en fin des années 2000,
bien sûr, classique
Michael Jackson. Pourquoi ce titre de Michael Jackson, Billie Jean, à la fin des années 2000?
Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque, Michael Jackson évoque quelque chose à tout le monde. Même dans des tribus perdues en Amazonie, j'ai vu un film dans une tribu perdue, on leur montrait de la neige qu'ils n'avaient jamais vue, on leur montrait de la guerre, ils disaient qu'est-ce que c'est que ça, nous, si on nous prend quelque chose, on prend la même chose à l'autre, mais c'est tout. On leur faisait écouter la calasse, ils étaient saisis d'émotion. Et quand on a dit Michael Jackson, les jeunes savaient qui c'était. Michael. C'est incroyable. Au fin fond de l'Amazonie, on connaît Michael Jackson.
C'est planétaire, quoi. C'est universel.
Oui, mais après, ça swing bien. C'est de la belle musique avec les arrangements de Quincy Jones.
Grand monsieur du jazz, en effet.
Ça va.
Et à la fin des années 2000, Liliane Rovert, on vous retrouve comme réalisatrice d'un court-métrage, Modus Vivendi.
Oui.
Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Ben, je voulais surtout pas réaliser. Je m'en faisais un monde. On m'a poussé dans la fosse aux lions. Mais...
qui vous a poussé?
On m'a poussé dans la fosse aux lions.
Des gens qui ont eu confiance en vous.
Voilà. J'avais bien fouillé mon scénario, mais je n'imaginais même pas du tout que je réaliserais quoi que ce soit.
Ouais.
Mais j'ai eu le bon goût de bien m'entourer.
Mm-hmm. Mais il n'y a pas de regret, en tout cas.
Non, j'ai pas de regret. J'ai passé une semaine formidable. Mais je me suis bien entourée. J'avais une équipe très, très, très talentueuse. Et donc, j'étais bien gardée.
Au point d'avoir envie de recommencer?
À réaliser, ça, je sais pas. S'il faudrait encore qu'on me pousse dans la fosse. Hein.
Dans cette même période, Kev Adams, vous écoutiez quand même. Chanteur de troquet.
Parce qu'on vient de loin.
Parce qu'on vient de loin. C'est
ma génération.
Oh là là.
C'était ça, c'est Corneille, c'était incroyable. Il y a quelques années, Corneille, c'était une vague de. Il avait fait ça, il avait fait Rêve de Star. C'était des musiques, je les écoutais en boucle. Quoi. J'adore encore ce qu'il fait d'ailleurs. Mais à cette époque, tu pouvais pas ne pas écouter Corneille. Quoi.
Et il se passait quoi dans la vie de Kev Adams, Leïla, à cette époque?
De Kev Adams. Qu'est-ce qu'il s'appelait? C'est la vie de Kentucky là-bas.
Moi, j'ai gardé le masque.
Kev Adams.
Vous décrochez votre bac, et je crois que c'est une condition sine qua non à la maison aussi. C'est une sorte de deal passé avec votre mère pour dire j'ai envie de faire de la scène, j'ai envie de faire plein de choses, mais le bac, c'est important.
Exact, exact. Non, elle m'a toujours dit je te ferai chier toute ta vie tant que t'auras pas ton bac, quoi.
Et c'était la même chose du côté de votre père, ou c'était...
Mon père a toujours été beaucoup plus cool. Père, il a toujours été en mode écoute, tant que t'arrives à t'en sortir, moi je te soutiendrai.
C'est vrai.
Ouais, franchement, il a toujours été assez cool.
Et aujourd'hui, est-ce que tous les deux ont une vision commune de votre vie, de votre avenir,
leurs
inquiétudes, quoi?
J'ai toujours eu des relations très différentes avec l'un et avec l'autre, quoi.
Ouais.
Ils ont divorcé quand j'avais 19-20 ans. Donc c'était super particulier. Je faisais déjà un petit peu ce métier. Je commençais déjà à être exposé. Et puis, ça a été un divorce assez violent. Et ensuite, j'ai toujours eu des relations très différentes avec l'un et avec l'autre. Mon père, ça a toujours été plus plus une relation de pote, de, on peut parler des heures de tout, de rien, de son boulot, de son truc. Et je sais qu'il est très, très, très fier de ce que je fais et très admiratif. Ma mère, pareil, mais elle est beaucoup plus dans son rôle de mère, quoi. Tu vois, elle fait attention, fait ci, fait ça, truc. Elle s'occupe de toute ma paperasse, par exemple. C'est elle qui fait tous les papiers.
Ah, encore aujourd'hui?
Ouais, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui.
Elle a de la chance?
Ah
oui.
Ah ben c'est au-delà de la chance. C'est au-delà de la chance. C'est extraordinaire. C'est un cadeau de la vie et du destin d'avoir une maman qui s'occupe de tout. Alors après, on a fondé une société avec laquelle on produit des programmes, avec laquelle on produit des spectacles. Donc c'est dans le sein de,
au cadre,
c'est
cadre professionnel.
Elle est professionnelle. Elle est avec d'autres employés. Elle fait pas ça toute seule à la maison en mode, oui, allô, dis-moi, cette facture, je l'ai pas.
Non, non, ça va. Non, mais surtout,
c'est plutôt bien foutu,
elle
tu vois.
Elle est payée pour le faire. C'est pas de la dévotion maternelle, quoi.
Tout à fait.
C'est une femme de confiance pour vous, en tout cas.
Elle est totalement payée pour le faire et elle fait un job qu'elle aime. Et c'est ouf pour moi parce que j'ai entendu ma mère toute ma vie être en angoisse. D'aller au boulot, rentrer le soir en angoisse de son travail. Mmh. Et donc, c'est cool de faire un taf qu'elle aime. Tu vois, le travail, pour moi, ça se passe hyper bien. Elle fait un boulot où c'est elle qui choisit ses horaires. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ouais.
Tu veux pas me la passer?
En
2014, avec plaisir, Liliane.
En 2014-2015, Liliane Revers, vous écoutiez.
T'as voulu voir Vierzon et on avait Vierzon. Ah, j'adore ça, c'est Booba.
T'as voulu voir Vesoul et on avait Vesoul.
T'as voulu voir Hambourg
et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère.
Comme toujours.
Chauffe Marcel, chauffe.
T'as voulu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe.
Voilà, chauffe Marcel à l'accordéon avec Jacques Brel.
Oh, l'accordéon qui fait derrière ce que Marcel Azola fait derrière Brel, c'est génial.
Non, c'est vrai, c'est une vraie prouesse de musicien.
Mais c'est magnifique.
Et on va parler du phénomène 10%. Quand le scénario vous a été proposé, ça s'est passé comment? À quel moment?
Écoutez, d'abord j'ai eu un rendez-vous pour un casting. Je ne savais pas où j'allais. On m'avait envoyé une scène à apprendre. Je trouvais que la scène était d'abord assez tendue. Elle avait quand même, on avait le temps de s'exprimer. Et puis elle était bien écrite. Elle était bien foutue. Donc je suis allée comme ça. Voilà, j'ai fait ça. J'avais une réplique. Un jeune stagiaire qui me donnait la réplique. Je suis rentrée chez moi. J'ai attendu un bon moment. Je n'y pensais même plus. Un jour, mon agent m'a dit allô, c'est toi qui le fais. Ah, j'ai dit bon. Et puis, je ne savais pas dans quoi j'allais.
Ouais.
Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une série, encore moins de ce qu'elle deviendrait.
Oui, bien sûr.
Et j'ai vraiment fait connaissance du scénario le jour de la lecture, quoi.
Et c'est un succès presque mondial.
Ah ben, c'est un succès planétaire, c'est un truc.
Récemment, il y a encore des pays.
Il faut faire des études pour savoir à quoi tient ce succès.
Oui.
À quoi ça tient.
Peut-être qu'il ne faut pas faire d'études et que c'est la magie du succès.
Évidemment, c'est ça qui est beau d'ailleurs.
Au cinéma, dans la musique.
Oui, d'accord, mais ça serait quand même intéressant de savoir tout de même qu'est-ce qui provoque cet engouement général.
Vous voulez analyser le truc, vous voulez pas laisser, vous voulez pas kiffer en disant ok c'est bien, ça marche, c'est top.
Ah non, je fais les deux.
Ok, d'accord. Okay,
en tout cas, le personnage d'Arlette est un personnage du coup important quoi dans votre filmographie et dans le fait de nouer de nouvelles collaborations. J'imagine que ça a changé les choses quand même, Arlette.
Bah écoutez, ça a été un coup de bol quand même parce que c'était être arrivé dans une série aussi bien foutue, aussi bien écrite, qui a un succès pareil, avoir un rôle dedans, c'est un cadeau quoi.
Toujours dans ces mêmes années, 2014-2015, Kev Adams, vous écoutiez Coldplay.
Qui n'écoutait pas Coldplay, ça arrive.
Thomas Pesquet. Et c'est la création de votre société, justement, en famille.
Ouais.
C'est ça?
My Family.
Exactement, ouais, tout à fait. On a créé cette société en 2015 et on a produit une douzaine de films depuis avec cette société, donc c'est plutôt cool.
Pourquoi créer une entreprise? Qu'est-ce que ça apporte pour vous d'un point de vue artistique ou même d'un point de vue professionnel?
Une liberté totale dans la création, c'est-à-dire que sinon vous dépendez uniquement des scénarios qu'on vous propose. Et malheureusement, moi, on m'a trop souvent proposé dans ma vie des choses qui étaient... soit trop cliché, soit trop rabaissante, soit pas assez intéressante, pas assez ambitieuse.
Ou qui finissait par se ressembler les unes aux autres.
Exactement. Ouais, et puis d'ailleurs, très souvent, j'ai pas l'impression, franchement, depuis le début, que le métier m'a proposé tant de rôles que ça, ou m'a tendu la main tant que ça, quoi.
Vous pensez que Maison de Retraite, on vous l'aurait jamais proposé?
Absolument
si vous l'aviez pas
jamais, j'en suis sûr et certain.
Bah, vous avez bien fait de l'écrire.
Je le sais, puisqu'il y a pas mal de financiers du cinéma qui m'ont dit « Ah bon, toi là-dedans ? Ah ouais, c'est bizarre, toi là-dedans. »
On est vraiment, du coup, ça motive encore plus.
On est vraiment pays des, on est au pays des étiquettes, quoi. Vraiment. Parce que
bon, on le savait. Là,
c'est, non, mais c'est... Vous imaginez qu'on vous voit dans quoi, alors ? Parce que j'essaie de comprendre.
Bah écoutez, demandez-leur. Ouais. Moi, je sais pas, mais je pense qu'on me voit toujours dans...
dans des sketchs, entre
guillemets. Oui, en tout cas, dans des films où j'ai eu du succès, c'est-à-dire Les Profs, c'est-à-dire Aladdin, c'est-à-dire ces espèces de... que j'assume à fond. Que j'adore, ouais, hein, mais des espèces de grosses comédies super colorées, ouais. Presque un peu adaptées de bande dessinée. Il y a un côté un petit peu ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents, tu vois. Il y a un côté Pixar presque que j'assume à fond et que j'adore. Et j'espère que je continuerai à faire des films comme ça, un peu cartoonesques, puisque j'adore faire ça. Maintenant, dès qu'on veut attaquer des sujets un peu plus compliqués, c'est toujours une galère. C'était déjà le cas il y a 4 ans, on m'avait dit sur un film qui s'appelait Amis Publics, on ne te voit pas là-dedans, tu veux parler des enfants qui ont le cancer, c'est dégueulasse. D'ailleurs, j'étais venu en faire la promotion ici.
Exactement.
En émission. Et le film a fait 850 000 entrées au cinéma et on a reçu les résultats Netflix. Il est sur Netflix maintenant, on a fait plus de 3 millions de clics sur Netflix.
Super.
Donc comme quoi, le film avait le mérite d'exister, tu vois. Mais je sais pas, il y a un truc avec ce métier de... Et puis je sens que je l'ai fait chier, franchement, on va être cash. Je l'ai fait chier. Ça fait des années que les gens qui sont, tu vois, les grands acteurs, on va dire, du cinéma, sans citer personne de précis, il y a un côté un peu, vas-y, il nous a saoulé, lui. Ça fait des années, on lui ferme les portes à la gueule, il rentre par derrière, tu vois. Jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand tu vas faire tes films? Jusqu'à quand tu vas faire tes spectacles? On t'aime, hop, on te l'a dit, dans 18 critiques. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Et moi, j'avoue que ça m'amuse un peu.
C'est ce genre de ne pas avoir la carte.
Ah, c'est au-delà de ça. Pas avoir la carte, ça arrive à plein d'acteurs formidables. Je crois pas que Danny Boone ait la carte, ça l'empêche pas de faire un ou deux films par an, ça se finance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc assez logique, c'est normal, le gars fait des succès, etc., etc. Moi, je te dis, en toute humilité, je fais 18,5 millions d'entrées en 8 films, en 9 films. C'est des scores qui sont dingues, je le réalise aujourd'hui, puisque j'ai eu des très grosses entrées et des moins bonnes, donc je réalise aujourd'hui que c'est gros, tu vois, et je galère encore à financer des films. C'est au-delà de pas la carte.
Fanny?
C'est pas un truc assez classique dans la comédie, qui est toujours vu comme vraiment le genre.
Ça joue, c'est une évidence. Ouais. C'est une évidence. Oui. Ce que je dis souvent, la comédie est au César, ce que le rap, le hip-hop est aux Victoires de la musique, cette espèce d'enfant interdit de cérémonie, ces espèces de sous.
Et qui vend plus et qui fait plus entrer.
Et qui vend plus et qui fait vivre tout le monde. Mm-hmm. N'oublions pas, c'est important. Les films d'auteur aujourd'hui existent grâce à la comédie. Les gens qui gagnent des prix au César ou au Molière ou tous ces trucs-là, c'est grâce au théâtre de boulevard qui cartonne et aux films de comédie qui cartonnent. Sur chaque entrée, il y a ce qu'on appelle la part CNC qui est prise et qui va aider les films d'auteur à se faire. Sans le CNC, aujourd'hui, il n'y a pas de films d'auteur qui existent. Donc c'est vrai qu'on devrait être une grande famille, mais cette famille, elle est divisée depuis longtemps, bien avant mon arrivée, et je pense malheureusement que ça le sera bien après mon départ aussi. Tu
famille
vois
que vous avez réunie avec Gérard Depardieu et vous, déjà à l'affiche, là on comprend aussi le message et de se dire ça peut s'adresser à plusieurs publics, celui que va drainer
complètement
Depardieu,
et c'est
celui
intéressant
que
Depardieu accepte. On parle de ça puisque Gérard, pour le coup, m'a dit ça a été toute sa vie. Il m'a dit à l'époque où je tournais avec Piala, les gens disaient mais qu'est-ce que fait Piala à faire tourner ce gars, quoi. Il me dit c'est ce que la presse disait et moi je lui dis mais c'est impossible. Enfin mec, t'es vu comme une espèce de légende avec qui tout le monde a tourné avec. Ah ouais, non mais à l'époque il me dit c'était constant et il me dit je me suis fait massacrer par la presse toute ma vie, à tel point, il m'a dit, je me suis tellement fait massacrer que le jour où ils m'ont donné le César, j'en voulais plus, il m'a dit. J'en voulais plus.
Il y a également Daniel Prévost, Mylène de Mongeau, Jean-Luc Bideau, Firmin Richard, Marthe Villalonga, Antoine Duléry,
Jarry, c'est ça que j'adore aussi,
Manda Touré, Oussama Kedam,
Microbe. Exactement, on a réussi à mixer plein de générations d'acteurs et des acteurs qui ont des formations très très différentes. Vous avez Depardieu qui a tourné avec tous les plus grands réalisateurs de cette planète, vous avez Liliane Rovert qui a tourné avec Blier, vous avez Jean-Luc Bideau qui a été quand même pendant 10 ans un sociétaire de la comédie française. Ouais. Enfin, je veux dire, on a réussi à mixer...
Et qui a fait l'hélicoptère à l'écran.
Et qui a fait aussi l'inventeur de l'hélicoptère...
À l'écran.
Oui, exact. Mais pas celui qui vole, qui reste sur place.
C'est ça. Maison de retraite, c'est aujourd'hui au cinéma Yann, et non pas Yves, pardon, mais un Y point, j'ai dérapé. Yann Lanier nous a rejoint. Bonjour et merci d'être à ce micro, Yann.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de l'association des petits frères des pauvres. Je donne tout de suite l'adresse internet, c'est petits frères des pauvres, tout au pluriel, et sans point et sans tiret, .fr. Cette association existe depuis 1946. Elle consiste en quoi? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais précisé.
Alors, Nagui, l'objet des petits frères des pauvres, c'est de lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Et moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, Kev, c'est merci. Merci parce que votre film sort à un moment assez particulier avec l'actualité des 15 derniers jours, mais aussi l'actualité des deux prochains mois et la question du débat démocratique qui est devant nous et de la place des aînés. Alors, pour répondre à votre question, Nagui, les petits frères des pauvres, on lutte contre l'isolement social des personnes âgées. C'est une vraie grande problématique sociale. Je vais juste vous citer deux chiffres. 530 000 personnes de plus de 60 ans dans ce pays, dans notre dernier baromètre qui est paru en octobre, sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire non de contact avec personne. Et 2 millions de personnes sont en situation de grand isolement social.
C'est-à-dire que c'est la famille elle-même qui oublie ses ancêtres?
Pas nécessairement. Je me permets d'intervenir, mais parce que je viens de... On a fait une association avec une association formidable que vous devez peut-être connaître pendant la tournée des avant-premières qui s'appelle Une lettre, un sourire. C'est super simple. On envoie des lettres à des personnes âgées qui sont en situation d'isolement. Et donc j'ai posé plein de questions et on m'a expliqué que c'est pas forcément des gens qui ont été abandonnés par leur famille. Parfois c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Parfois c'est des gens qui ont une famille mais qui vit à l'étranger, qui peut pas être là tout le temps. Parfois c'est des gens qui ont des familles avec lesquelles ils se sont brouillés. Donc ils ont des enfants, mais en fait il y a mille et une raison qui fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont seuls, soit chez eux, soit en EHPAD, soit en maison de retraite. Et c'est vrai que moi, on m'a montré des vidéos de ces gens qui reçoivent les cartes postales que les spectateurs des cinémas ont écrit après avoir vu le film. Puisque c'est l'opération qu'on a fait avec cette association.
Ça doit être bouleversant.
Tu peux pas ne pas avoir les larmes aux yeux. C'est-à-dire que c'est dingue de voir à quel point une lettre leur fait du bien. Il y a un côté, on pense à moi. Il y a un côté, j'existe, en fait.
Alors, Yann, que faut-il changer, finalement? Parce que quand on fait le constat et on a compris qu'il y avait une manne financière, l'or gris, d'ailleurs, ce surnom un peu moche et sale, une manne financière en disant, en exploitant la détresse, la solitude des personnes âgées, on peut se faire beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est le scandale qui éclate, heureusement, aujourd'hui, que le scandale éclate, parce que peut-être que ça va changer, espérons que ça change les choses. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour que ça change?
Alors, deux choses peut-être, Nagui, si vous le permettez, avant de répondre vraiment sur ce que faut-il faire. Tout d'abord, la destinée de tous les vieux de ce pays, c'est pas d'aller à l'EHPAD. Aujourd'hui, c'est une infime minorité des personnes qui sont dans les EHPAD. Et les EHPAD auxquels vous faites référence, c'est-à-dire les EHPAD privés lucratifs, ça n'est que 20% des EHPAD. Ça veut dire que 50% sont des EHPAD publics et les 30% sont des EHPAD privés non lucratifs. On en a aux petits frères des pauvres. Sont des EHPAD associatifs ou détenus par des fondations.
Ce sont des personnes âgées qui n'ont plus les moyens de vivre en autonomie, qui ont besoin d'un suivi médical.
Notre population, elle est effectivement une population extrêmement modeste, voire en grande vulnérabilité financière. Les petits frères des pauvres, on suit 30 000 personnes aujourd'hui. On a des centres de vacances, puisque le droit aux vacances à tout âge, quel que soit l'état dans lequel on est, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc, vous avez eu la gentillesse de donner l'adresse de notre site internet et vous verrez qu'on fait partir en vacances des gens qui peuvent y compris ne pas se lever, être allongés, etc.
Mais donc, c'est magnifique.
On considère vraiment que le droit en vacances, c'est jusqu'au bout de la vie. Et puis, c'est 15 000 bénévoles qui, tous les jours, visitent des personnes que l'on nous signale en situation de grand isolement social. Et à votre question, que peut-on faire? C'est une question qui concerne toute la société. C'est pour ça que on a lancé au mois d'octobre un kit qui s'appelle Chasseurs de solitude, qui permet même à des gens qui ne veulent pas être bénévoles chez nous, simplement de recevoir chez eux ou de télécharger sur le site des petits conseils. Si on le demande par la poste, on reçoit aussi un sachet de thé, un jeu de cartes. Le petit truc qui va permettre d'aller oser frapper chez son voisin dont on sait qu'il est tout seul, qu'il voit personne et qu'il est, Kev, exactement dans la situation que vous décrivez. Donc ça c'est notre action au quotidien. Et puis à partir de la rentrée prochaine, puisque moi je suis beaucoup la promotion de votre film et je suis très sensible à votre discours, nous allons aussi, et ça va être une nouveauté pour les petits frères des pauvres, intervenir au collège pour faire de la lutte contre l'âgisme. Vous savez, l'âgisme, c'est le racisme anti-vieux.
C'est ça.
Mais aussi de l'éducation aux liens. Parce que avoir des liens, ça s'entretient et ça se cultive. des liens d'amitié, des liens avec sa famille. Vous citez beaucoup, Kev, les liens avec les grands-parents. Ben, tout ça, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on l'apprend pas assez. Et donc, on va travailler avec des services civiques, un nouveau programme, qui vont intervenir devant des collégiens, 6e, 5e, puis peut-être plus tard, dans une logique un peu plus philosophique sur l'éducation aux liens au lycée, pour pouvoir justement aussi contribuer à ce que ces choses-là puissent être plus fluides dans les années à venir et que les grands-parents, qu'on regarde Netflix ou qu'on regarde Michel Drucker, on ait quelque chose à se dire.
Oh monsieur, vous me réchauffez le cœur. Je vous remercie. Vous aime.
Non mais c'est tout est dit quoi. Tout est dit. Et puis après je vais aller plus loin encore. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais la solution que nous on propose, elle est dans le film. La solution qu'on propose,
elle est bien
concrète.
Pour boucler la boucle.
Mais évidemment, ouais. Évidemment. Aujourd'hui, on peut pas laisser les personnes âgées dans ces conditions-là, et on a des solutions qui sont concrètes, qui sont faciles à mettre en place, puisque les lieux on les a, puisque voilà, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plusieurs centaines de maisons de retraite et d'EHPAD en France, il y a plusieurs centaines d'orphelinats aussi en France, donc il y a des choses à faire, c'est une évidence maintenant, et encore faut-il vouloir les faire, puisque effectivement c'est pas un job qui rapporte énormément, et malheureusement on sait qu'on est dans une société
qui est,
oui, malheureusement.
Liliane.
Non, je...
Ah, je voulais vous dire quelque chose, pardon.
Non. Je voulais vous redire que vous m'avez beaucoup touché, monsieur. Je suis très heureuse de ce que j'entends.
Clairement. Et avec un discours intelligent et encourageant peut-être pour l'avenir, de se dire, oui, déjà, il y a des gens comme vous qui vous en occupez, il y a des artistes qui sont touchés, et puis un public qui va être touché et ému par...
Et puis... Nagui, si vous le permettez, vous faisiez référence à Mick Jagger tout à l'heure.
Oui.
C'est aussi ça le combat aujourd'hui, c'est d'expliquer que les gens qui rentrent dans l'âge, c'est une nouvelle génération. Alors on a des images, on pourrait citer, Alain Souchon doit avoir à peu près l'âge de Mick Jagger aussi. Et on va avoir aussi des personnes âgées qui ont de nouvelles aspirations, qui sont différentes de la génération précédente. Et aujourd'hui, il y a une foule d'initiatives, des habitats partagés, des habitats inclusifs, qui vont mieux correspondre à cette génération-là. Donc, c'est important aussi qu'on ne refasse pas ce qu'on a fait pour les EHPAD. Parce que ce que met Victor Castanet en lumière aujourd'hui, c'est des décisions qui ont 40 ans. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas des entreprises privées faire à nouveau de l'or gris avec des nouvelles initiatives qui doivent rester assez locales.
Je redonne l'adresse internet de votre association Petits Frères des Pauvres, tout au pluriel, tout attaché, pas de point, pas de tiré, et c'est un site .fr. Merci beaucoup Yann Lanier d'être venu à ce micro.
On vous soutient à fond Yann.
Dans la deuxième partie de cette émission, on continuera avec Liliane Rovert évidemment et Kev Adams. Il y aura Daniel Morin avec son héros du jour et la culture avec Leïla Kadrboudadi. Et toi, Tanguy, de quoi parles-tu ?
Eh ben moi, je vais vous parler des Américains. Zemmour hier a appelé Trump. Obama, en 2017, avait été appelé par Macron. On a toujours besoin de se faire valider par un Américain, nous, en France. Alors qu'on est super, en fait.
C'est la deuxième partie de la bande originale sur France Inter.
Oui.
Ouais. Non.
C'est quoi,
17h. J'ai failli dire 17h, j'ai dit djou. Et j'ai
C'est petite entorse de la langue.
C'est la bande qui est partie en torche. La bande est partie en torche. Vieille expression de vieil animateur de radio. Écoutez ce que ça a donné.
Et France Inter, il est 10 ou 12.
Oh,
je savais.
Je rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. L'alcool tue et esquinte. Regardez l'état dans lequel
elle est. In utero aussi. Je fais passer un message.
Tu parles de ton week-end.
Voilà.
Elle revient.
Trop pour ça, moi.
Le temps de faire une siestoune, elle revient à 14h pour vous informer. À tout à l'heure, Tissia Gaillet. Puis évidemment, entre temps, il y aura eu à 13h le journal de
13h.
Fanny Ruet, Tanguy Bastureau, Daniel Morin et nos invités Liliane Rovert et Kamala. Avec ce film qui sort aujourd'hui au cinéma où vous pourrez avoir vos pop-corns et vos bonbons et vos caramels.
Yes.
Vous péter les dents.
Mais t'as quel âge?
Caramel.
Caramel.
Non.
C'est ce que j'aime au cinéma, c'est les baffes.
Ah oui, les
pop-corns caramélisés.
Oui.
que, ouais. Que je ne retrouve pas. Il doit y en avoir ailleurs, mais enfin,
c'est toujours précisé parce que la phrase que j'aime au cinéma, j'aime les c'est baffes. Les baffes. Ouais. C'était pas ouf.
Et Dieu sait si j'en ai pris et c'est pas fini. Dans ce film, donc, Kev Adams, Liliane Rovert qui sont nos invités, mais également Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène de Mongeau, Jean-Luc Bideau, Liliane Rovert, je l'ai déjà dit, pardon, Fillon-Mine Richard, Marc Villalonga.
Fillon-Mine Richard.
Antoine Duléry, Jari, Manda Touré, Oussama Kedam et Omar Mebrouk. La prochaine fois, c'est toi qui feras le casting de tout ce joli monde.
Je ne saurais pas le faire.
Et donc, tout ça pour éviter, on va rappeler quand même, resituer le film pour éviter la casse-prison, parce que Milan vit en coloc avec un pote d'enfance de son orphelinat. Ils ont grandi ensemble avec. Sauf qu'il y en a un qui a fait sa carrière dans la magistrature. Il est même brillant avocat.
Oui.
Et de l'autre côté, un peu la loose, celui qui n'a pas envie de se lever, qui arrive en retard au boulot.
Qui est le même tout petit et qui après.
C'est ça, même réflexe.
Et puis c'est celui qui dort sur le canapé de chez son pote, qui a zéro ambition, qui se fait virer de tous les jobs, qui traîne de magouille en magouille, de connerie en connerie. Enfin, on en connaît des mecs comme
et
ça, c'est ça que je veux dire.
Et qui est agent de caisse, et qui là se prend la tête avec Marie-Pierre Cazé pour le règlement d'une note dans un supermarché. Ça part en vrille, ça part en incident, il est viré, il est même condamné à 300 heures de travaux d'intérêt général. Et là, la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il a même peur, c'est dans la bande-annonce, hein, je préfère la prison à la limite que d'aller travailler dans une maison de retraite. C'est ça son choc.
Fait.
Parce qu'il a toujours eu un rapport difficile avec les vieux, parce qu'il n'a pas été aimé ni recueilli par ses grands-parents.
C'est exactement ça. Il a fait ce qu'on appelle un rejet total des personnes âgées. Donc de se retrouver là-bas, pour lui, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, au début, on voit bien que la cohabitation est compliquée.
Et il y a une phrase qui est dite, je veux la retrouver parce que je l'ai prise, cette phrase, je l'ai trouvée très très belle. Elle est mise en exergue d'ailleurs à la fin du film.
Bah bien sûr, c'est dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
Ah, vous
c'est
bien.
Une phrase de Groucho Marx.
Elle est formidable, oui. Formidable cette phrase. Et il y a celle aussi de Depardieu lorsqu'il vous tape sur le cœur.
Bien sûr, il dit il n'y a pas de super-héros sans moment sombre. J'aime beaucoup cette phrase.
Ouais, elle est belle.
Il te dit en gros, ce qui te permet de te réaliser dans la vie, c'est les moments les plus durs. C'est vrai que, et puis quand tu réfléchis à cette phrase, il n'y a pas de super-héros sans moment sombre, c'est génial, parce que tu réfléchis à tous les super-héros de l'histoire des super-héros, ils ont tous vécu des horreurs.
Il y a une chanson de Leonard Cohen où dans les paroles, alors pardon si c'est pas exactement les paroles, mais il dit des fissures naît la lumière.
J'ai
la
lumière. Non,
c'est pas ça. C'est
non.
Quoi?
Je sais pas. Non, c'est...
C'est l'idée. C'est ça, il n'y a pas de super-héros sans moment sombre. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de phrases dans ce film auxquelles je tiens très fort.
Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande comment. Ah, ça, c'est magnifique.
Ouais.
Moi, je l'ai ressenti personnellement parce que tous les jours, je me demande ce qui m'arrive.
C'est ce bon vieux Groucho.
Mais en ayant le sentiment aussi, parce que ce qui se passe, c'est dans la tête. Et tous ces retraités dans cette maison sont super jeunes dans la tête. Ils font des blagues de gamins, ils font des blagues de potaches, ils font des bizutages. Dans la bande-annonce, il y a aussi la vanne de la pédicure qui peut se transformer en épilation. Tout ça,
ils font des vannes tout le temps.
Oui.
Et ça te rappelle justement que c'est les mêmes personnes à l'intérieur. Alors la peau se ride, les cheveux blanchissent, mais à l'intérieur, c'est les mêmes, quoi. Tu vois, donc c'est aussi ce qu'on raconte avec ce film.
Il y a aussi des gens qui ont toujours été vieux, même depuis. Il y a des gens qui ne.
C'est clair.
Il y a des gens qui sont vieux et qui resteront vieux. Vraiment, il y a aussi beaucoup de gens qui ont.
Ah, mais
beaucoup...
c'est une évidence.
Oui, les vieux.
Il y a des gens à 22 ans, tu te dis, mais non, mais lui, il est tellement. Mon Dieu.
On a retrouvé la phrase précise de Leonard Cohen : il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi que naît la lumière.
Eh oui.
Bien sûr. Presque.
Là, maintenant, t'as rien à dire. Ok, d'accord. Ouais. Voici Tanguy Pasturo, on va voir ce que t'as à dire.
Hier, j'ai mis CNews, une chaîne BDSM où Laurent Geoffrin, qui est de gauche, se fait humilier en direct par Yvan Rioufol et Elisabeth Lévy qui lui disent qu'il est nul. Et j'ai su en direct qu'Éric Zemmour et Donald Trump s'étaient téléphonés. Vous vous souvenez de Donald Trump? Hein, ce monsieur jaune et orange qui donc est déjà le tiers d'un arc-en-ciel. Hein, plus que quatre couleurs et lui, c'est un drapeau LGBT. Alors, Guillaume Pelletier, le porte-parole de Zemmour, a déclaré le coup de fil a duré 40 minutes, soit la moitié de ce que dure une conversation quotidienne entre une mère et son fils chez les Juifs. Et, a-t-il ajouté, Trump a dit à Zemmour, je le cite, de tenir
tenir bon, de rien céder, c'est la ténacité et l'endurance qui finiront par payer. Alors ça, c'est typiquement américain. Yeah, if you want, you can, no pain, no gain. Enfin, toutes ces bêtises qui font qu'on s'agite pour rien, parce qu'au final, on va mourir. Donc autant glander en bouffant des chips, ce qui paradoxalement est aussi typiquement américain. Alors, Marine Le Pen, l'éleveuse de chats, hein, qui donc est entourée de créatures qui se lèchent l'anus, enfin comme Strauss-Kahn à la grande époque, a ironisé. Elle a dit « J'espère que Donald Trump se porte bien ». Elle est quand même gonflée, la louloute, parce qu'en 2017, elle s'était déplacée jusqu'à New York pour voir Trump. Résultat, l'autre l'avait snobé, comme Michel Sardou, le stand de la CGT lors d'une manifestation pro-palestinienne. Elle était restée dans le hall de la Trump Tower à végéter. Les gens pensaient que c'était la dame des toilettes. Elle était repartie avec 12 dollars. Et là, alors que Zemmour arrive à décrocher un appel avec Donald, elle se moque. Alors, ok, le planning de Trump, maintenant, le matin, c'est golf, l'après-midi, golf. Il a vu plus de trous que la dame qui repasse les habits de Philippe Poutou. Mais enfin, c'est un ancien chef d'État, c'est pas rien non plus. D'autant que Biden, à la fin de son mandat, lui, on pourra pas l'appeler, il n'entend déjà plus rien. Quand le chef des armées lui dit « on a des news de Poutine », il répond « bien sûr, je vais à la cantine ». Bref, Zemmour a appelé Trump, et je me suis souvenu qu'en avril 2017, Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président, mais juste un monsieur étrange qui en meeting hurlait « c'est notre projet !» alors qu'il n'avait pas de projet. C'est comme si le pape François s'était mis à crier « c'est une sacrée soirée de sexe !» hein, ou qu'Anne Hidalgo aujourd'hui criait « merci à tous mes fans !» Bon, vous avez saisi le truc ?
Très bien.
Ok. Alors Macron, en avril 2017, avait appelé Obama. Il avait mis ça en scène en postant une photo de lui au téléphone, les manches retroussées. Alors les manches retroussées, ça signifie « je suis un politique qui agit » ou « je suis en train de faire naître un veau et j'ai pas envie de salir cette chemise café coton offerte par ma femme avec du placenta de vache ». Bon, mais Macron n'a pas fait naître de veau. Hein, c'est un citadin. Au mieux, il aurait pu couver un œuf de pigeon un jour en allant se mettre sans slip en haut d'un arbre et se poser dessus. Bon, enfin, si vous faites ça, immédiatement, on vous juge. Ah bon, on peut plus rien faire. Il y a juste une fenêtre de tir de 4 jours à Woodstock où on pouvait faire l'amour à des castors en regardant Joe Cocker cracher ses poumons. Mais depuis, le monde est aussi fun qu'un backgammon avec Bruno Retailleau. Et là, hier, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est marrant, ce truc qu'on a encore en 2022 de vouloir absolument se faire valider par les Américains. Je veux dire, si Zemmour hier avait eu au téléphone le président pakistanais, ce sont ces gens qui vendent des roses dans les pizzerias. Le Pakistan, c'est une sorte d'interflora géant. Ça doit être très beau, hein. Enfin, la Hollande, mais sans les drogués, quoi. Et ben, il serait pas allé le raconter. Et Macron, en 2017, il a dû avoir plein de chefs d'État au téléphone. Mais le coup de fil qu'il a médiatisé, c'est celui avec Obama. C'est pas un hasard. C'est l'effet ricain. On a encore ce complexe d'infériorité qui fait que les States, ça claque. Tenez, dites à des amis cet été, je vais à Palavas. Ils auront pas la même réaction que si vous dites cet été, je vais à Vegas. Mais parce qu'aux États-Unis, tout est démultiplié. Very bad trip à Palavas, ça aurait été l'histoire de trois copains qui, au balto, disent, allez, ritons ce soir en slash, tu nous remets trois panachés. On reste ébloui par tout ça. Quand Omar Sy, qu'aux États-Unis, on appelle Omar Yassias, nous raconte un tournage à Valenciennes. On lui dit, on s'en fout. Mais quand il revient de Hollywood où il a croisé Nicole Kidman, qu'il n'a pas reconnu puisque chaque jour son visage change et de forme. Hein, c'est la femme de Barbapapa. Bon, bah là, on l'écoute. Pourquoi est-ce qu'on a été si fiers pendant des années des Daft Punk? Pas à cause de leur casque à la con, on aurait dit Deliveroo. Non, parce qu'ils ont conquis l'Amérique. Pourquoi est-ce qu'on a été si fiers en Europe de Christophe Colomb? Parce qu'il a conquis l'Amérique. Alors oui, de manière un peu énergique. Mais il n'y avait pas Instagram. Hein. Pour se faire connaître, on devait tuer des Indiens. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, aujourd'hui, Nabila tuerait des Indiens. On l'appellerait, ils l'appelleraient la démon au corps foufou. Et en fait, je vais vous dire, ça fait pitié, quoi. Zemmour, il est eu au bout du fil qui, finalement, un ex-président, il est finito, Trump. Macron, en 2017, pareil. Obama, il était déjà à la retraite parce que lui, il a arrêté de travailler à l'âge où un futur médecin finit ses études. Mais c'est un enfer. Bill Clinton, à 55 ans, était à la retraite. Sa femme Hillary n'en pouvait tellement plus de l'avoir à la maison sur 2 décennies qu'elle s'est elle-même présentée à la présidentielle pour se barrer. Je veux dire, c'était ça ou le cours de Zumba, mais aucun prof avait accepté de l'accueillir dans son local de 7h à 23h. Donc arrêtons avec les Américains, ils sont bidons, ils nous ont tout piqué. Le stand-up, d'accord. Le barbecue, pardon, mais Jeanne d'Arc, c'était 1431 en Haute-Normandie, d'accord. Ils portent même des jeans, quoi. On n'a pas besoin d'être validé par des gens pareils, quoi. Vive la France.
Merci.
Et Tanguy, tu seras jeudi prochain à Montpellier sur scène.
Oui, enfin, convoqué par l'ambassade du Pakistan d'abord, mais après, tu seras sur scène. Dans la culture, sort aujourd'hui. D'accord.
Ça part vite.
Donc,
ça part vite.
On fait de la radio sans faire de signe, rien. On va continuer. Très bien. Donc, je voulais rappeler que le film Maison de repas, là, d'ailleurs, Maison de retraite. Ouais. La nuance est importante.
Oui, enfin, vous pouvez dire la maison de retraite, ça me dérange pas.
Ouais, parce que non, mais moi, maison de retraite, je trouvais plutôt quelque chose de très général pour toutes les situations.
C'est mieux, maison de retraite.
C'est pas un endroit, oui, c'est ça. Ouais. Ça concerne tous, c'est pas un endroit.
Coup de bol, c'est comme ça que ça s'appelle.
On va garder ça. C'est aujourd'hui, c'est au cinéma, et nos invités Liane Rovert et Kev Adams sont là jusqu'à 12h30 et dans l'actualité culturelle. Ça, c'est de la radio. Leïla Kaddour Bounedi pour nous dire quoi?
Ouais, on va parler de Bong Joon-ho. Vous savez, le réalisateur du film Parasite, il vient d'annoncer un nouveau projet. Un film de genre avec une star américaine.
Genre Kung Fu?
Quel genre d'après vous et quelle star? C'est la question que je vous pose.
Est-ce que c'est Kung Fu?
Kung Fu, non.
Non, c'est un film d'horreur, je pense.
Pas un film d'horreur.
Comédie musicale, quoi.
Science-fiction. Science-fiction. Bien vu. Premier point pour Kev.
Avec et une star qui n'a rien à voir avec la science-fiction?
Rien à voir. Avec une grande star que vous avez pu voir dans les films de Cronenberg.
Avec Viggo Mortensen?
Non. Et il est associé
Daniel
à
Jeremy Irons.
Jeremy Irons.
Non plus.
Il Jeff Goldblum.
Non plus. Il est associé à Twilight.
Avec Robert Pattinson.
Bravo, Robert Pattinson.
Les deux là, comment ils ont foncé, Morgan et Kev?
Comment on a maté Twilight?
On est tellement la génération Twilight.
Un film donc de science-fiction avec Robert Pattinson. Voilà le prochain long métrage du réalisateur de Parasite. Il va adapter un livre en plus qui n'est pas encore sorti d'Edward Ashton pour voilà.
Mais il a déjà lu.
Comment il a fait pour le lire, lui?
Parce que j'imagine qu'ils se sont il a acheté les droits à l'avance. Forcément, c'est ça le grand cinéma. Le cinéma de genre, est-ce que c'est un cinéma que vous aimez? Est-ce que c'est un cinéma que vous voyez régulièrement, Kev?
Moi, j'adore.
Quel genre?
Ben, j'adore les films d'horreur, j'adore les films fantastiques, science-fiction, voilà tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais. Les films d'aventure, les road trips, tu vois, ces cinémas-là, j'adore.
Vous vraiment. Attendez avec impatience le nouveau Michel Hazanavicius sur les zombies?
Ah, je sais pas ce que c'est sur les zombies?
C'est zombies, ouais.
Ah, génial.
Je pense déjà, à ça parce que c'est Serge qui vous avait mis.
Déjà que je suis absolument fan du cinéma de Michel Hazanavicius, ouais. mais alors là, s'il a fait un film sur les zombies, c'est un grand oui.
Et vous, Liliane, est-ce que vous aimez le cinéma de genre?
Oui, mais pas de n'importe quel genre.
Alors lequel?
Moi, j'aime particulièrement le film noir.
D'accord.
Des films noirs. Oui, les polars, le film noir. En noir et blanc, en particulier.
En plus, en noir et blanc, d'accord.
Oui, enfin, j'en aime d'autres aussi, il y a d'autres films.
Hein, muet, de préférence. Ça,
The Artist, quoi.
Je n'aime pas que ça, mais oui.
Les Humphrey Bogart, les Casablanca, c'est ça?
Le Faucon Maltais.
Ouais, génial. Ouais. Génial.
Etc.
Et est-ce que vous allez beaucoup en salle tous les deux? Est-ce que vous êtes des vrais assidus du cinéma? On en parle beaucoup du cinéma, mais est-ce que vous y allez beaucoup, vous?
Moi, j'ai honte, je ne vais pas beaucoup en salle parce que je suis flemmarde et que se déplacer, ça devient...
Compliqué?
Non, pas tellement compliqué, mais enfin, je vous dirais, il faut s'y mettre, quoi. Je veux dire. Alors, j'ai un très grand écran de télé à la maison et je regarde énormément de films.
D'accord.
Voilà.
Et
je regarde beaucoup de documentaires.
Moi, j'y vais énormément, ouais. Moi, j'y vais vraiment beaucoup.
Oui, parce que c'est quand même c'est une sortie, c'est une ambiance dans une salle de cinéma.
C'est irremplaçable.
Et partager les réactions d'un public, c'est génial aussi.
C'est pas ma coupe.
J'adore ça.
Ouais, qu'est-ce que vous avez vu récemment, Kev, qui vous a beaucoup plu?
Alors, j'ai vu Adieu, Monsieur Hoffman, que j'ai trouvé formidable. Ouais. Les deux acteurs sont extraordinaires.
Gilles Lelouch, Sarah Giraudot, Daniel
Auteuil. Et puis c'est un huis clos, c'est ça qui est dingue, adapté d'une pièce de théâtre et tout. Il y a vraiment un truc où tu tiens, t'es avec eux tout le film. Enfin voilà, vraiment, je le conseille, j'ai adoré. J'ai adoré le dernier film d'Yvan Attal que j'avais été voir juste avant.
Les choses humaines.
Les choses humaines, formidable.
L'adaptation.
Très, très, très joli film.
Du roman de Karine Thuil,
ouais. Et puis c'est fou comme l'intensité dans ce film monte petit à petit. Et on est pris dans le truc, et à un moment donné, tu peux plus lâcher, quoi. Il te coupe le souffle. Mmh. Puis j'ai vu le dernier Spider-Man, évidemment, No Way Home.
Verdict.
Qui est vachement bien, qui est super. Franchement, je me suis éclaté, c'est du fun. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Tanguy, tu vois, c'est vrai quand même qu'ils sont forts, quoi. Ils sont forts, ils sont trop forts. Ils font leurs films, on les consomme dans le monde entier. Leur bouffe, on la consomme dans le monde entier. Enfin, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, Starbucks, McDonald's et Spider-Man, ça fait partie de la vie de tous les Français, tu vois, entre 10 ans et 45 ans. Mais
c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial non plus.
Mais j'ai pas dit que c'est ce qu'il y a de plus génial. Parfois, dans la vie, on se demande pas que ce qui est bon, on se demande qu'est-ce qui nous fait kiffer, quoi, tu vois. Et aller faire un bon cinéma, tu mets Spider-Man, tu sors, tu te fais un McDo, tu bois un Starbucks. J'ai pas dit que c'est le top pour ta santé, mais je te dis que t'as passé un énorme moment. Et franchement, ils sont trop forts.
Morgan.
Moi, je suis fasciné par les caries depuis tout petit et je sais pourquoi. Quoi.
Non, Liliane tout à l'heure parlait des populations en Amazonie qui connaissent Michael Jackson. Et le deuxième truc qui est connu, c'est Coca-Cola aussi. Quand ils connaissent rien d'autre, c'est Michael Jackson et Coca.
Moi, je l'ai vécu de ma vie, de mon expérience personnelle. J'ai été quand même voir les Suri dans le sud-est de l'Éthiopie, qui est une tribu qui, quand ils voient des avions, ils te disent c'est des grands oiseaux avec des hommes qui montent dessus. Et c'est des oiseaux que nous, on n'a jamais su dompter. C'est ça, qu'ils te disent. Les mecs n'ont jamais vu la vraie civilisation. Ils vivent nus dans la nature. Et tu leur montres une bouteille, ils te disent Coca-Cola.
Quelle que soit la forme de la bouteille.
Quelle que soit la forme de la bouteille.
C'est à propos des Indiens d'Amazon, je me souviens aussi qu'on leur a montré des vieux dans des EHPAD.
Ah oui, ils comprenaient pas. Ah
non, si, ils ont dit pas. Maison de retraite sortie le 16 février.
Non, ils comprenaient pas. Ils disaient nous, nos vieux, on les garde avec nous jusqu'au bout.
Mais évidemment, évidemment. Mais la preuve, nous aussi, on fait ça. Voici Daniel Morin.
Non, faut pas rire. Alors aujourd'hui, les amis.
Il est fort quand même.
Mon héros du jour aurait pu être Nicolas Bay. Oui, le porte-parole de campagne de Marine Le Pen. Car oui, ce brave Nico est dans la tourmente. Son parti l'accuse de transmettre des infos stratégiques au camp ennemi, à savoir au camp Zemmour. Nom de Dieu, une affaire de barbousse chez les fachos. En même temps, je me demande ce que ça peut être, des informations stratégiques secrètes du Rassemblement National. Allô Zemmour, c'est Nico. Allô Zemmour, ici Nico, à vous.
Oui.
J'ai une information stratégique de première bourre.
J'écoute.
Pour l'instant, c'est off. Hein. Attention, c'est un scoop. Marine devrait s'en prendre à l'immigration. Je répète, elle va s'en prendre à l'immigration. Eh ben voilà, c'est pas du scoop, ça. C'est normal qu'il se fasse virer. Il s'est fait gauler, mon Nico, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais bon, pour autant, il n'est pas mon héros, Nicolas Bay. Non, déjà parce qu'il s'est fait gauler. Quand t'es un vrai héros, tu ne te fais jamais gauler. Et puis aujourd'hui, eh ouais, 16 février est une journée exceptionnelle. Oh, la rouverture des boîtes, les amis! Oh, on n'en peut plus, vous le savez, je suis un grand danseur. Combien de fois ai-je remporté le titre de Senior Salsa, Mr. Cha-Cha ou Monsieur Tango? Ces soirs, c'est programme de folie. À minuit, j'emmène Leïla au Badaboum. Et on va danser sur cette musique. Et celle-là, bien sûr.
C'est Corona.
Eh oui, Leïla devient folle, bien sûr. Elle est déjà dans l'ambiance, regardez. Elle se tortille. Attends un peu, Leïla, c'est dans 12 heures. Remets tes chaussures, on nous regarde. Un peu plus tard, j'ai rendez-vous avec Tanguy Pastureau. Oui, Tanguy, comme ça, quand tu le vois, tu crois que c'est un mec qui a besoin d'être à 6 grammes pour dégainer une chenille? Pas du tout. C'est un déglingo, le gars. Le gars en boîte, c'est ça qu'il veut. Ah ouais. Oh, il veut du son qui fait mal, Tanguy. Nom de Dieu, ça y est, il se met à baver. Tout doux, mon Tanguy, tout doux, ce soir, tu pourras tout lâcher. Tanguy, c'est un fou furieux. Quand il entend ça, il pousse tout le monde, il se met sur la piste, il hurle à la mort, il déchire ses fringues. Alors, pour finir la soirée, j'ai promis à Morgane de l'emmener danser, mais dans le calme, m'a-t-elle demandé. Oui, elle me dit tout le temps, j'ai une vie à la con, tout dans le speed, j'ai besoin de me reposer. Là, je suis bien, mon Daniel, je suis zen, Schubert sur les oreilles, et toi qui me colle pas, tout va bien. Oui, les amis, les boîtes de nuit sont mes héroïnes du jour, c'est comme ça. Du coup, j'en appelle solennellement.
Oh. Qui ?
Au portier de boîte de nuit. Luigi, Marco, Dédé. Oui, tous les videurs s'appellent comme ça. Luigi, Marco, Dédé, ce soir, les gars, s'il vous plaît, ouais. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Laissez rentrer tout le monde.
Ça fait longtemps que t'as pas été en boîte.
Même ceux qui sont en basket. Laissez rentrer.
Je signale que le premier morceau que t'as passé, This is the Rhythm of the Night, est interprété par un artiste qui s'appelle Corona. Donc sortir en boîte avec après Corona. Le Covid pour aller danser sur Corona.
C'est le goût du risque.
C'est une belle ironie, ouais, c'est ça. Maison de retraite, c'est aujourd'hui au cinéma avec Liliane Robert et Kev Adams qui étaient nos invités. Des projets de votre, soit de votre boîte de prod, soit de vous en tant qu'acteur, c'est de faire quoi bientôt?
Bah plein de choses. On travaille sur une série en ce moment avec le groupe TF1 qui est un peu justement une série novatrice pour le groupe TF1. À savoir une série fantastique, justement.
Super, génial.
Et ils ont vachement peur du fantastique. On va pas se mentir, quand même, chez TF1, c'est souvent qui a tué la petite Maryse. Cette enquête ne va pas être évidente.
Et puis, est-ce que vous remontez sur scène en 2023 comme ça a été annoncé?
Exactement. Ouais, je reviens sur scène avec un nouveau spectacle que je suis en train d'écrire actuellement. Mais en fait, c'est compliqué parce que j'ai accepté de faire deux trucs de manière parallèle et c'est un peu complexe. Je dois filmer un spécial pour Netflix à fin mars, début avril, qui va être une heure de blagues, que des nouvelles blagues juste pour Netflix. Et en même temps, j'écris un spectacle qui part en tournée l'année prochaine. Les deux ne sont pas le même spectacle.
Et l'énergie.
Et la petite Maryse.
Qui faut retrouver.
La petite Maryse.
Liliane.
Réponse mardi prochain sur TF1.
On vous
avec
verra
Audrey
prochainement.
Audrey Fleurot et Thomas Sisley.
Quel est le prochain film, le prochain téléfilm que vous avez fait?
Moi, j'ai, ces jours-ci, là, bien, j'ai fait une apparition dans un Léo Mattei.
D'accord.
Une série.
Très bien.
Voilà. J'ai un film prévu pour.
Qui a tué la petite Maryse avec Léo Mattei?
Pour le printemps. Donc j'espère qu'il va se matérialiser bientôt. Il y a une addition à 10%. Il y a un unitaire qui est écrit mais qui n'est pas du tout encore mis en route, mais enfin qui est écrit pour France 2 et pour Netflix.
Qui est de Last Dance de 10%, quoi.
Voilà.
Ok.
Et puis j'ai espoir aussi de jouer au théâtre l'année prochaine.
Oh, formidable, super. Formidable. Merci mille fois en tout cas d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro. Des excuses à présenter, Daniel Morin, j'imagine.
Bien sûr, déjà, désolé pour tous nos auditeurs qui exercent le noble métier d'assureur. Oui, c'est vrai, les amis, vous avez été stigmatisés, moqués, tambourinés par Kev Adams. En même temps, vous êtes une belle corporation de salopards. Non, parce que moi aussi, je peux en dire des trucs sur les fumiers. Hein, il a raison, monsieur Adams. Quand pour pomper le compte des autres, il y a du monde, mais pour faire tout petit chèque, hein, pour un malheureux dégât des eaux, eh ben, il n'y a plus personne. Merde à la fin. Bravo, monsieur Adams.
Ça sent le vécu.
Un petit peu, mon neveu. Ouais. Désolé pour la belle famille du cinéma. Oui, ce matin encore a été légèrement écorné. Oui, parce que Kev Adams a raconté ce matin concernant les difficultés qu'il rencontre à monter ses films. Quel monde de salauds. Ah, bah, tiens, on parle de cinéma et de mauvaises personnes. Demain, on reçoit Antoine Duléry et François Berléand. Et enfin, désolé pour toutes les mamans des petites Maryse qui ont eu très très peur qu'il soit arrivé des misères à leur fille. Non, non, c'est juste Kev Adams qui fait une sale blague.
En effet, demain, Antoine Duléry, qui est dans le film Maison de retraite, et également François Berléand, cette fois-ci pour parler de Par le bout du nez, cette pièce de théâtre qui se joue en ce moment.
C'est formidable.
C'est formidable, absolument. Qui avait déjà été joué par FX de Maison et Berléand avant le Covid. Merci et qui est reprise là maintenant par Antoine Duléry et François Berléand. Merci. Mille fois Liliane Envers, merci mille
merci
fois Kev Adams. Bonne journée, Maison de retraite, c'est
merci
aujourd'hui
vous,
au cinéma.
C'est toujours un plaisir d'être dans cette émission.
Sympa, les carnets de campagne, Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis.
Tout baigne, Philippe.
Oui, tout baigne. Je vais faire vite, j'ai qu'un mot.
Dis-moi.
Non, même deux mots. Coca-Cola.
Ouais,